Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonjour à tous, une semaine formidable comme tous les lundis à 17h sur Radio Rythme Bleu avec trois invités aujourd'hui, Bruno Salvet, Eric Figuère et Grégory Sirgue. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur ce week-end sportif qui a été riche en événements. On va parler F1, rugby et football. Et on va commencer par la Formule 1, tiens, pour une fois, parce que ce Grand Prix de Las Vegas n'est pas passé inaperçu. Il a complètement relancé la fin de la saison, Grégory Sirgue. Pas seulement pour le résultat, mais parce que les deux McLaren ont été disqualifiés à l'issue du Grand Prix.
Alors,
la première question que je vais vous poser, elle est très simple. Cette disqualification, elle est due à quoi ? Une petite pièce qui est située complètement sous la voiture et qui n'était pas aux normes ?
C'est ça, en fait. Alors, j'ai cherché l'article de la réglementation technique. Hein. C'est une pièce sous le plancher de la voiture qui fait 10 mm. Donc, on parle vraiment de pas grand-chose, quoi. Qui a une tolérance d'usure de 1 mm. Et donc, ça nous amène à 9 mm. Et là, par exemple,
Norris... Il ne faut pas qu'elle soit plus fine que 9 mm
c'est
à la fin de la course.
Et là, par exemple, Norris, donc son écart le plus faible, c'était 8,93 mm. Et pour Piastri, c'était 8,96. Donc, on parle d'une disqualification avec l'annulation des points pour les concurrents pour 0,04 mm d'épaisseur.
Quoi. Oui, mais ça fait réagir personne. Enfin, tout le monde trouve que c'est normal.
Bah, même McLaren a été obligé de se plier à la décision puisque c'est le règlement technique qu'ils connaissent par cœur et ils développent les voitures. Même si les commissaires ont dit « Ok, on pense qu'il n'y a pas de volonté manifeste de tricher. » Mais quoi qu'il arrive, le règlement, c'est le règlement. Et la sanction qu'ils prévoient, c'est une disqualification, pas un ajout de seconde, etc. Donc... La décision est prise et maintenant il faut s'y plier. Quoi.
Voilà, alors vous comprenez ce genre de décision ? Ça vous semble normal ? La question qu'on est aussi en droit de se poser, c'est que les écuries connaissent quand même parfaitement évidemment le règlement.
Elles savent qu'elles
sont très très contrôlées et malgré ça, visiblement, on ne va pas dire qu'ils ont triché parce que ce n'est pas forcément de la triche volontaire, mais en tout cas, ils savaient que la pièce qui avait été mise risquait de terminer la course plus fine que le règlement.
C'est ça, ben là il y a eu une usure anormale, donc maintenant ils pouvaient la prévoir ou non. Mais quoi qu'il en soit, le résultat, il est là et ils ont pas le choix. Quoi. Donc, quelque part, c'est bien. C'est qu'on voit que des fois, on pense que les règles sont faites pour être un peu arrangées, on va négocier, etc. Là, on voit, il y a le couperet tombe, pas de négociation. Et même l'écurie se plie derrière. Je crois qu'il y a eu Ferrari cette saison qui a eu le même cas avec Hamilton, il me semble. Et pareil, ils se sont pliés à la décision. C'est comme ça.
C'est comme ça, un commentaire peut-être,
Bruno Salvet. Oui, sous-entend qu'il y a des commissaires qui vérifient l'ensemble des pièces jusqu'à celle qui est placée sous la voiture
c'est
et qui
ça,
mesure moins de 10 mm.
Et c'est prévu, il y a des contrôles aléatoires qui sont faits après chaque course. Même les pilotes sont pesés après chaque course, etc. Et même à un tout petit niveau, moi j'ai pu le voir ici en championnat de Calédonie de rallye. Si on a envie, les commissaires sportifs, on prend n'importe quelle voiture et on fait un contrôle inopiné dessus pour vérifier que c'est conforme à la réglementation.
Quoi. À quoi ça sert de peser les pilotes ? On imagine qu'à la fin d'une course, généralement, ils pèsent moins lourd qu'avant la course.
Il me semble qu'il y a un poids minimum à afficher pour le voiture plus pilote, en fait.
Donc c'est un poids d'ensemble qui est pris en compte. Éric Figuère, un commentaire sur cette disqualification des McLaren.
Moi, j'ai toujours des commentaires à faire, donc ça tombe bien.
Ça tombe bien, vous êtes invité pour
voilà.
Ça en même temps. Donc
Une fois qu'on a dit effectivement que le règlement était le règlement, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ça. Maintenant, on peut quand même développer un peu, même avec un écart si faible qui a pénalisé cette écurie. La grande question, c'est comment une écurie, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, comment cette écurie de pointe, plus que de pointe, hein, puisqu'elle est championne du monde en titre constructeur et championne du monde, double championne du monde constructeur, comment une écurie pareille, on peut faire aussi un peu le parallèle avec Ferrari, qui a régulièrement des problèmes, on vient d'en parler à l'instant, mais tant d'autres problèmes aussi régulièrement chaque saison, et qui l'a fait toujours un petit peu patiner, d'ailleurs, tiens, c'est le cas. Comment est-ce que donc l'écurie McLaren arrive à se faire disqualifier pour ça ?
Il y a une réponse,
c'est juste improbable.
La raison qu'ils auraient donnée en réunion, moi, j'y étais pas, évidemment, mais c'est que les essais libres ont été écourtés.
Vous êtes rentré de Las Vegas tout à l'heure.
Les essais libres ont été écourtés et ce qui fait qu'ils n'ont pas pu régler comme il faut la hauteur de la voiture et avec l'effet qu'on appelle le marsouinage où la voiture rebondit et en fait vient se coller au sol par moments, c'est les étincelles qu'on voit, il y a eu une usure anormale qu'ils ne pouvaient pas anticiper. C'est ça, donc, la raison.
On va mettre ça sur des circonstances de Grand Prix et de week-end un peu compliquées.
Voilà.
On ne va pas incriminer plus McLaren que ça.
Comme on le disait, ça arrive effectivement à un moment de la saison.
Alors justement, voilà, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour McLaren, mais c'est une bonne nouvelle
pour les téléspectateurs.
C'est une bonne nouvelle pour le championnat du monde, effectivement, Grégory Seng.
Pour une fois, c'est ce qu'on disait, pour une fois qu'il se passe quelque chose, parce que malheureusement, et heureusement pour ces écuries qui dominent en général, Verstappen avec son écurie, avant Mercedes, bien évidemment, avec Lewis Hamilton. Donc c'est tant mieux pour eux, hein, quand on domine, j'imagine que pour eux, ils sont très contents, mais c'est vrai que pour le spectacle, ça l'est un peu moins. Cette année, enfin, alors même si on a cru à un moment donné que Verstappen était un peu en perte de vitesse, en fait, on a bien compris que ce n'était pas du tout le cas, même si son écurie est moins, pour le coup, dominatrice cette année. Alors, on est très content d'avoir deux écuries qui se font face, même si on voit bien que le partenaire de Verstappen, lui, n'est pas du tout au niveau. Donc, c'est bien la preuve que ce pilote, même si je ne l'apprécie pas plus que ça, est quand même, a priori, le meilleur pilote du monde. Voilà, le meilleur pilote
actuellement,
du plateau,
oui.
Il n'y a pas de discussion. Alors,
question quand même, parce que les deux McLaren donc, ont été disqualifiés, le championnat du monde est relancé, puisque Lando Norris compte 24 points d'avance sur son coéquipier Oscar Piastri et sur Max Verstappen.
24,
c'est-à-dire qu'il reste encore 33 plus 25, il reste 58 points à distribuer, puisque c'est le ça. Week-end prochain, il y aura course sprint. Est-ce que Verstappen peut être champion du monde?
On a vu par le passé des pilotes s'emboutir volontairement.
Oui, mais ça, c'est une autre époque,
Eric Figuier.
Est-ce que Max Verstappen peut décrocher le titre?
Mathématiquement,
parce qu'on a vu que les McLaren étaient un peu en difficulté ces derniers Grands Prix.
Alors, elles étaient en difficulté, particulièrement Piastri. Norris était dans une bonne dynamique. Là, il fait quand même deuxième, il ne faut pas l'oublier sur la course. Donc, il aurait repris de l'avance encore sur les autres. Maintenant, c'est sûr que ça remet tout en cause mathématiquement, mais je reste sur mon pronostic que j'avais fait en tout début de saison. Avec McLaren, champion constructeur,
ça,
et Norris, pilote. Quoi.
Donc,
je pense
voilà,
que si Norris fait un peu attention à ses départs, voilà, ne fait pas n'importe quoi comme ce week-end, parce que là, pour le coup, on se demande même s'il a envie d'être champion du monde, parce qu'une telle erreur, c'est quand même... s'il avait réussi à garder sa position, il est très probable, même si on ne peut jamais jurer de rien, bien sûr, qu'il aurait été en tête à la fin de la course, très probablement. Donc, s'il fait le travail sans même aller chercher forcément la victoire, parce que s'il fait deux podiums, il sera champion du monde. Donc, voilà, si les deux coéquipiers arrivent à se laisser tranquille et à ne pas se faire de misère, je vois pas comment, sauf évidemment en fait de course, une casse moteur, bien évidemment, ou ce qui peut arriver.
Alors, il reste encore deux grands
gagner,
prix.
Il faudrait que Max Verstappen gagne tout. Donc, la course sprint du Qatar, le GP du Qatar, plus celui d'Abu Dhabi, et que dans le même temps, il y a Norris qui soit P4 et P5 des deux autres Grands Prix.
Donc,
c'est compliqué.
Crois,
quoi.
Oui, alors après, on sait bien que les circonstances de course font qu'il peut y avoir des sorties de route, des arrêts au stand malencontreux. Enfin voilà, il peut y avoir aussi des faits de course qui bouleversent tout.
Bah justement, quand on parle là des arrêts au stand, en fait, là, on parle aussi de cette disqualification parce que ça remet un peu en cause l'issue du championnat. Mais en fait, McLaren aurait pu tuer le championnat il y a bien longtemps au niveau pilote, seulement à vouloir à tout prix avoir une égalité, t'as fait un mauvais arrêt au stand, du coup j'en fais un mauvais sur le suivant, etc. Ils sont sortis totalement de leur course, ils se faisaient des guéguerres internes, et ce qui fait qu'ils n'étaient pas concentrés.
Ça aussi on l'a vu par le passé.
Alors, il reste deux Grands Prix, on l'a dit. Là, il faisait très froid à Las Vegas. Il va faire très chaud pour les deux prochains Grands Prix. C'est au Qatar et à Bahreïn, je crois.
Qatar et Abu Dhabi.
Qatar et Abu Dhabi. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a une sorte de pression négative sur McLaren parce qu'ils sentent bien que les choses se compliquent? Une pression positive, au contraire, chez Red Bull parce qu'ils se disent le titre, finalement, on n'y pensait plus, mais il est peut-être jouable encore au niveau des pilotes.
Ah bah, Verstappen, à mi-saison, on lui dit écoute, dans deux Grands Prix, tu peux être champion, et il signe dès demain, je pense, parce que clairement, il n'était pas sur cette dynamique-là. Et donc, c'est sûr que lui, il est lancé, il est comme un boulet de canon depuis plusieurs Grands Prix.
De toute façon, c'est son caractère. Hein.
Oui, mais ce qu'il a fait, quand même, c'est vraiment un exploit. Quoi, parce que...
Et n'oublions pas sa dernière course où il part de loin, je crois.
Il part des stands et
il revient, sur le podium. Donc, ça montre encore une fois que c'est le meilleur. Maintenant, si chacun fait ce qu'il a à faire.
C'est ça. Voilà, c'est toujours plus facile à dire. S'ils assurent, comme on dit, logiquement, Norris sera champion.
Après, la peur de gagner, hein, on sait tous ce que c'est, et les grands champions aussi.
Donc, on va suivre les deux grands prix qui restent encore
Norris,
avec beaucoup d'intérêt.
Parce que Norris a quand même un bel avantage quand même. Lui, il n'a jamais été champion du monde pilote. Verstappen, oui.
Oui, mais il a envie de l'être encore à nouveau, hein, voilà. Visiblement. Un tout dernier mot, allez, quand même, pour refermer ce chapitre F1 à Grégory Sirg. On arrive, on l'a bien compris, en fin de saison, et on est un peu déçus pour les Ferrari, hein, cette saison, qui n'ont jamais franchi le palier qu'on espérait qu'elles puissent franchir.
Non, bah, ils étaient quand même loin. Loin. Le seul des deux pilotes qui a vraiment assuré, c'était Charles Leclerc. Hamilton, la mayonnaise n'a pas trop pris pour l'instant. On verra si ce sera mieux la semaine prochaine. Moi, la saison prochaine.
Oh, aussi la semaine prochaine, mais bon, il y a peu de chance quand même.
Mais surtout la saison prochaine. J'avoue que j'y croyais pas trop en début de saison. Et pour l'instant, j'y crois pas plus du transfert du siècle dont on parlait. Quoi.
Ces transferts-là n'ont jamais abouti. Hein. Souviens-toi, chaque fois qu'un pilote champion du monde, multiple champion du monde, est allé chez Ferrari, ça s'est jamais très très bien passé. Et ça fait aussi très longtemps que Ferrari ne gagne plus. Enfin, en tous les cas, les titres constructeurs et pilotes.
On va attendre la saison prochaine pour voir si les choses bougent ou pas.
Ils nous font sachant qu'en plus, il y a une nouvelle réglementation technique. Donc, les voitures qui ont gagné cette saison, ça ne veut pas dire qu'elles vont gagner la saison prochaine. Quoi.
C'est ça qui fait aussi l'intérêt de ce sport. C'est exactement la même chose en MotoGP. On l'a bien vu avec des Ducati qui ont survolé les 4-5 dernières années et qui, là, en fin de saison, ont vraiment du mal. Et on ne sait pas ce que ça va donner la saison prochaine. On va passer au rugby, si vous le voulez bien. C'est la fin quasiment, parce qu'il reste un match, en fait, des tests d'automne, comme on les appelle, Bruno Salvé, avec les équipes de l'hémisphère sud qui viennent jouer les équipes de l'hémisphère nord, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on a suivi évidemment ce dernier match de l'équipe de France face à l'Australie, 48-33. Une victoire avec 7 essais inscrits contre 5 du côté australien. On attendait beaucoup de ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Après, on le rappelle, la défaite contre les Sud-Africains et une victoire poussive contre les Fidji.
Oui, c'est dans la continuité. Même si le score est, on approchait quand même des 50 points, mais bon, c'est une petite équipe d'Australie fatiguée après une longue saison internationale. Donc c'est vrai
et qui enchaînait les défaites en plus.
Hein. Et qui enchaînait les défaites, donc c'était pas simple pour les Australiens. Et avec une entame de match des Australiens vraiment tonitruante, énormément de mouvements, ils ont énormément déplacé le ballon, les Français se retrouvaient en difficulté, donc c'est vrai que les Australiens ont montré vraiment une belle image, notamment en première mi-temps. Le score est de 19-19 à la pause, donc une équipe française qui a du mal à trouver des automatismes, des repères, qui se repose énormément sur les qualités individuelles. On pense à l'essai que tout le monde a vu de Louis Bielbarré qui est exceptionnel. En pleine course, il arrive à taper un petit coup de pied, le rattraper et puis aller marquer.
Et faire un crochet au moment où il rattrape le ballon.
Oui, c'est vraiment un surdoué. Et donc c'est vrai que sur des actions individuelles, l'équipe de France a réussi à se relever et à rivaliser et puis à finalement gagner cette partie.
Ouais. Mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter du niveau de l'équipe de France? Parce qu'on sait que pour Fabien Galthié, la vision, c'est évidemment la Coupe du Monde 2027. Il y aura avant le tournoi Destination qui sera très important. Il y a un plan de charge, il y a des objectifs à trouver. Quand on l'écoute en conférence de presse, on sent beaucoup de cohérence finalement dans ses propos et dans l'approche qu'il a, y compris des difficultés actuelles. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce que finalement on est dans une marche et une progression qui fait que le groupe doit se régénérer et se retrouver aussi?
Oui, complètement. On a l'impression, quand on voit les joueurs, on les trouve déjà fatigués alors que c'est le début de la saison. Quoi. On attaque le début de la saison top 14. Donc on sait très bien que pendant l'intersaison, les charges de travail sont quand même assez importantes, mais c'est vrai que après la Coupe du Monde, c'est autre chose. Les staffs ont les joueurs à disposition pendant 2 mois, c'est une préparation vraiment spécifique. Disons que ce type de tournée permet justement de faire une revue d'effectifs. On a vu émerger quand même pas mal de jeunes joueurs, et donc ça c'est toujours intéressant de voir de jeunes joueurs évoluer au plus haut niveau avec de belles surprises. Hein. Je pense au jeune Gourgue là, qui a fait une très belle
Le Toulousain.
On a aussi une nouvelle première ligne, parce que c'est vrai que pendant des années on s'est reposé sur Uni Antonio
qui est blessé,
donc il nous faut un droitier, il faut vraiment de nouveaux piliers. Donc il y a Montagne qui a commencé, donc il faut essayer de nouveaux joueurs
et puis il y a quelques absents aussi, Peato Maovaka, Antoine Dupont. Alors on sait bien que c'est pas une individualité qui fait toute l'équipe, mais c'est quand même des joueurs clés à des postes clés.
Complètement. Un Antoine Dupont, déjà, ne serait-ce que par son rôle de capitaine, c'est un meneur d'hommes, et puis après, sur le terrain, c'est un leader de jeu aussi. Donc c'est vrai que quand Antoine Dupont va revenir, ça va insuffler une nouvelle dynamique au sein du groupe.
Il revient quand ?
Alors normalement, il devrait
début
reprendre.
Début décembre.
Oui, là, il devrait pas tarder à reprendre avec son club.
Il devrait être là pour le tournoi destination.
Je pense qu'il sera là pour le tournoi des destinations. Oui, mmh. Oui.
Vous avez regardé le match, Grégory Sirgue?
Oui, je partage le même constat et j'ajouterai également beaucoup d'indiscipline de la part des Français.
Absolument.
Particulièrement
Absolument.
En première
Mais moins
mi-temps.
Moins que contre les Fidji ou l'Australie.
À la première mi-temps, c'est compliqué. Heureusement que le buteur australien n'est pas dans un bon jour, parce que le score à la mi-temps, sinon, ce n'est pas le même. Hein.
Oui, ouais, il y a plus de 9 pénalités, il me semble, en première mi-temps. Au niveau international,
c'est 7 par match. Hein,
voilà, le bon c'est tempo. Entre 8 et 9 pénalités sur l'ensemble du match. Quoi. Donc, c'est beaucoup trop. Et on l'a vu aussi, lors du match, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, entre les Sud-Africains et les Irlandais.
Parce que celui-là, il ne fallait pas le rater. Non,
voilà, ouais. Donc les pénalités jouent énormément, et une équipe énormément pénalisée ne peut pas gagner. Quoi.
On va écouter Eric Figuier qui a aussi. Avancer une dernière question à Bruno Salvet. Vous parlez de l'indiscipline les uns et les autres. On sait aujourd'hui que dans les staffs des équipes, il y a des anciens arbitres hein, qui oui. conseillent les joueurs, qui conseillent le staff. Je crois que c'est Jérôme Garcès qui est avec l'équipe de France en ce moment. Est-ce que leur rôle, finalement, ne montre pas ses limites? Parce que quand on est pénalisé à ce point-là, normalement, les joueurs sont préparés.
Oui, mais là, pourquoi on est pénalisé? Parce qu'on se met à la faute. Pourquoi on se met à la faute? Parce qu'on est en retard, parce que physiquement on souffre, et parce que surtout, ce que je disais tout à l'heure, les Australiens ont mis énormément de volume de jeu, énormément de vitesse. Ils ont marqué au bout de la quatrième ou troisième minute. Donc
troisième minute, je crois.
Voilà, donc ils ont mis une intensité. On connaît cette équipe australienne, avec notamment les deux centres, Iketau et Suali, qui sont qui sont des joueurs très performants. Et qui ont fait beaucoup de mal à cette équipe de France. Et bon, après, sur les fondamentaux, l'équipe de France a pu, notamment sur les mêlées, sur le jeu d'avant, a pu resserrer cette défense.
Mais on les a sentis perdus un peu dans certaines combinaisons par moment, ils ne savaient plus bien où il fallait envoyer le ballon quand même.
Après, voilà, ce sont des repères à avoir, hein, c'est compliqué, hein, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'ils sont ensemble. Donc voilà, ce sera tout à fait une autre musique pour la Coupe du Monde, puisque là, ils auront quand même 2 mois de préparation. Et juste à noter que c'est la dernière édition de ce type de rencontre.
De test match,
puisque maintenant, il y a une nouvelle compétition qui va rassembler les équipes de l'hémisphère nord et certaines équipes de l'hémisphère sud, et qui se déroulera donc en juillet. Et malheureusement, le calendrier a été tiré. Et le 4 juillet, donc, les Français se déplaceront en Nouvelle-Zélande. Et comme le 4 juillet, la finale du top 14 aura lieu juste une semaine avant. Donc, déjà,
sans les. Même principe que sur la tournée précédente.
Ça va être compliqué pour les Français. Je sais qu'ils ont demandé un report de, mais qui n'a pas été pris en compte. Donc, voilà.
Rappelez-moi le board, ce qu'on appelle l'instance dirigeante du rugby, c'est les Anglais qui dirigent.
C'est le World Rugby, ça s'appelle. Ouais. Le World Rugby, avant c'était l'IRB.
C'est les Anglais qui sont à la manette, hein.
Ce sont le siège social est à Dublin, en Irlande. Ouais. Bah, ce sont les britanniques, quoi.
Les anglo-saxons.
Les anglo-saxons, on va dire, ouais, c'est ça.
Éric Figuier, votre regard sur ce match France-Australie.
Je vais être un peu plus général. J'avais dit la semaine dernière qu'on aurait quelques enseignements à savoir si la France, évidemment, dont on sait qu'elle fait partie des meilleures nations, bien évidemment, du monde, mais si face à l'Australie, qui est quand même en perte de vitesse et qui gagne peu, on saurait effectivement, ou on aurait des enseignements en tous les cas pour savoir si la France était véritablement au-dessus de cette équipe d'Australie et donc à sa place parmi les 4 premières nations mondiales. Ben, force est de constater qu'on n'est pas beaucoup plus avancé. Et ce qui est un petit peu inquiétant, parce que ce qui nous intéresse quand même, et je le dis suffisamment, c'est la Coupe du Monde. Bien sûr qu'on s'intéresse au tournoi destination annuel, bien évidemment, mais ce qui nous intéresse, c'est la Coupe du Monde, puisqu'on ne l'a jamais gagnée. Et la grande question, encore une fois, c'est est-ce que ça va nous permettre d'avancer vers cette victoire finale? Et ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est ce qu'a dit Fabien Galthié, puisqu'il a dit qu'il y a 4 ans, à la même époque, on était plus fort qu'aujourd'hui. Voilà, et donc quand on connaît l'analyse, le professionnalisme, le niveau de Fabien Galthié, on peut se poser des questions.
On sait aussi que c'est un garçon intelligent, roublard, rusé, et qui envoie des messages pour envoyer des écrans de fumée de temps en temps.
C'est vrai, mais en tous les cas, en tous les cas, on l'a jamais gagné.
Un filou, oui, il en a marqué des essais.
On l'a jamais gagné, et on ne sait pas si comme ça on va réussir à la gagner. Et puis c'est vrai qu'il y a des fois, on n'a pas à s'inquiéter quand il y a une baisse de régime, quand les équipe, quelle qu'elle soit, quelle que soit la discipline, a déjà gagné. Mmh. En l'occurrence, déjà gagné la Coupe du Monde. On se dit, bon, on a déjà vécu ça, une baisse de régime, un petit moment un peu plus mou, mais derrière, on sait qu'on a gagné. Sauf que nous, en fait, on n'a pas gagné derrière. Mmh. Donc, on ne sait absolument pas si cette période aujourd'hui qu'on vit va nous servir à rebondir, va nous servir avec tous ces essais, tous ces tests de ces jeunes joueurs, etc. Va nous servir, voilà. Donc,
on va attendre et voir. J'aimerais quand même un mot de votre part, Bruno, sur l'équipe d'Australie. Je ne partage pas tout à fait l'avis en disant que c'est une équipe en perte de vitesse. Je crois que c'est au contraire une équipe qui est en train de se reconstruire et qui a un peu du mal.
C'est ton droit de penser différemment.
Mais oui, c'est pour ça qu'on le lit. Il y a quand même ce problème à l'Australie qu'a connu la France à une certaine époque. Je crois que c'était quand le sélectionneur de l'équipe de France était celui qui est parti ensuite en Italie, dont j'ai oublié le nom un instant, qui entraînait Perpignan. Jacques Brunet. Qui n'arrivait pas à mettre deux fois de suite la même charnière. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais deux fois le 9 et le 10 ensemble, c'est exactement la même chose en Australie, et du coup, ça a du mal à prendre.
C'est une équipe expérimentale, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui évoluent à plusieurs postes. C'est vrai que les charnières sont évolutives, mais bon, c'est une équipe en construction. Connaissant les Australiens, je pense que la Coupe du Monde chez eux, ils vont savoir la préparer. Ils ont été deux fois champions du monde déjà. On connaît la culture australienne du haut niveau.
Il faut qu'ils trouvent aussi leur bon entraîneur, parce que Joe Smith a terminé là.
Absolument, mais il y en a un qui a été désigné déjà, donc Joe Smith, oui, c'est vrai, c'était son dernier match. Je pense que les Australiens... Le seul problème, et c'était l'enjeu aussi de ce match-là, c'est que il fallait que les Australiens battent les Français de 16 points pour être tête de série au tirage de la Coupe du Monde. Donc là, les Français ont remporté ce match.
Pour préserver l'essentiel, on va dire.
Voilà, donc ils vont être tête de série pour le tirage. Ça veut dire qu'ils éviteront quand même une grosse équipe.
Ils peuvent tomber sur l'Australie, hein.
Oui, voilà, où l'Australie peut tomber dans la poule de la France. Donc le tirage, il me semble, c'est le 2 décembre.
Début décembre.
Voilà, début décembre, on aura les poules. Et malheureusement pour les Australiens, ils seront dans une poule où il y aura déjà une tête de série.
Un mot encore, parce qu'on l'a évoqué rapidement, mais il faut en parler, de ce match entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, où les Irlandais ont fini par s'incliner 13-24 au terme d'un match d'une intensité qu'on peut qualifier d'assez exceptionnelle, hein, Bruno.
Oui, c'est...
Je pense en gros, ça a tapé tout le temps, quoi.
Je pense que les kinés et les bains de glace ont dû...
La cryogénie.
La cryo, hein, ouais, non, ils ont... Ouais, parce que ça a été une intensité incroyable. Imaginez, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais les Irlandais, si. À un moment donné, ils étaient à 12 contre 15. Ils ont pris un carton rouge assez rapidement pour une faute complètement stupide. Mais après...
Très mauvais déblayage.
Oui, voilà, oui, carrément. Et à la mi-temps, le score est de 7 pour l'Irlande et 19 pour les Sud-Afs. Mais malgré cela, ils arrivent à gagner la deuxième mi-temps, les Irlandais. Alors, on parle souvent des Irlandais et du fighting spirit, donc cet esprit de
combat jusqu'à la fin.
Ben là, ils nous l'ont prouvé que chez eux, parce qu'ils ont défendu mais pratiquement 20-25 minutes sur leur ligne en deuxième mi-temps, avec un pack sud-africain qui, à chaque pénalité, demandait une mêlée, et sur chaque mêlée, les pauvres, ils se faisaient exploser, ils se faisaient déchirer. Donc c'était, mais par contre, ils n'ont rien lâché. La défaite est quand même honorable par rapport à cette...
Alors, ce qui est inquiétant quand même, si on regarde cette équipe de sud-africaine, qui est quand même double championne du monde, hein, elle a remporté les deux dernières Coupes du Monde.
Oui.
Elle réussit à maintenir un niveau assez exceptionnel, avec des joueurs exceptionnels. Elle trouve des nouveaux joueurs qui sont en train de faire sensation. On pense aux demi d'ouverture, dont le nom est à peu près imprononçable.
Sacha Fender,
Ngumezulu. Oui. Mais en attendant qu'en 2027, ils sont déjà les favoris, clairement.
Ils sont largement favoris par rapport à leur succession. Les deux équipes gagnantes de cette tournée d'automne, ce sont les Sud-Afs qui ont vraiment affirmé. Après, ils ont gagné aussi, vous avez oublié de le dire, deux fois le Rugby Championship. Donc c'est
au passage.
Donc c'est les Sud-Africains qui confirment leur place de leader. Et l'équipe d'Angleterre, qui, mine de rien, est remontée au classement et se retrouve troisième équipe mondiale, donc en passant devant l'Irlande, qui recule à la quatrième place.
Et des Néo-Zélandais, dont on ne sait plus très bien où ils en sont.
Bon, ils ont quand même... Bon, ils ont perdu un match. Lors de cette tournée d'automne, ils visaient le sans-faute et le grand chelem. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont tombés sur une équipe anglaise, pugnace, qui a remporté le match chez eux à Twickenham. Mais après, les Néo-Zélandais, on ne se fait pas de soucis pour eux. Ils ont toujours un réservoir de joueurs et ils seront toujours parmi les meilleures équipes... du monde.
Éric Figuer, l'Afrique du Sud en route
vers
un troisième titre.
Oui, clairement favorite, c'est plus qu'une évidence, hein, c'est une la palissade. Voilà, avec tout ce que vient de dire Bruno, c'est certain. Maintenant, on sait aussi, et on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, que les écarts sont bien plus faibles lors des matchs de gros.
Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde, assez voilà, quasiment.
Donc,
quasiment.
On a vu les derniers écarts à la Coupe du Monde étaient extrêmement faibles, puisque ça s'est souvent joué à un point.
Malheureusement, on s'en souvient.
Malheureusement, oui. Donc, ce sera encore le cas. Alors, pas forcément un point d'écart, bien sûr, mais ce sera encore le cas. Les gros seront à l'arrivée. On peut facilement mettre une pièce sur les quatre demi-finalistes, même si 5-6 équipes aujourd'hui peuvent y prétendre. Mais ce sera quand même autre chose que ces matchs internationaux.
Pour l'équipe de France, le prochain gros test, ça va être le tournoi destination, avec cette équipe anglaise qui est en pleine dynamique, avec énormément de jeunes joueurs aussi, qui ont intégré ce groupe.
Des Écossais qui n'arrêtent pas de progresser, même si là, ils semblent un peu plafonnés.
Les Écossais sont un peu en dessous, mais par contre, les Irlandais, et je crois que le match d'ouverture, les Irlandais viennent à Saint-Denis, donc au Stade de France, pour défier l'équipe de France.
Mais ne me dites pas qu'il faut qu'on se méfie de l'Italie.
Eh ben si, il faut se méfier, il faut pas prendre d'équipe à la légère. C'est respecter l'adversaire que de se méfier de
ces équipes. Je savais que vous alliez me répondre à ça. Grégory Sirg, un mot sur ces tournées et ces grosses équipes.
Oui, pour revenir aussi à la situation de l'équipe de France, on espère que l'organe qui gère le championnat aussi sera suffisamment intelligent avant la Coupe du Monde pour adapter le calendrier, pour qu'ils aient le maximum de temps de repos, parce qu'on en parlait, ça fait déjà plusieurs émissions, mais le calendrier qui est absolument dantesque
pour les joueurs.
Avec les
doublons, la Coupe d'Europe, le championnat, les équipes nationales,
surtout
les tournées.
On respecte tous les sports, mais on ne parle pas d'un sport où il n'y a aucun impact, où il n'y a pas d'enjeu physique et tout. Là, c'est quand même très très lourd.
Oui, ça tape fort, de plus en plus fort.
C'est ça, parce que les joueurs, même avant, ceux qui faisaient 120 kilos, c'était un peu des bourrins ou tout ça, ils avançaient pas très vite que là, maintenant...
Vous n'allez pas faire plaisir à un certain nombre d'anciens, Grégory.
Mais... ce que je veux dire, maintenant, des joueurs
mais c'est sûr que les règles n'étaient pas
kilos,
les mêmes, surtout les règles.
Ils font un 100 mètres comme un sprinter avant, quoi. Donc, prendre quelqu'un lancé de 120 kilos, c'est pas pareil que...
On en a vu certains lancer à 80 km/h et avec 120
km/h. Ça va très très vite, c'est très lourd, ça tape très fort. Donc
on en a pour preuve ce week-end, c'était un doublon avec le top 14. C'est-à-dire que les internationaux étaient sur la scène internationale et puis leur club jouait sans les internationaux.
Et donc, quand on sait que dans les clubs français, il y a beaucoup d'étrangers en plus qui jouaient ce week-end, ça fait dans certains clubs beaucoup d'absence.
Oui, ça permet aux jeunes de jouer, on va dire, heureusement. Mais bon, ça explique aussi un peu les résultats de certaines équipes ce week-end en top 14.
Allez, une petite pause dans ce magazine des sports du lundi. On se retrouve dans un instant pour parler football.
RRB, la pub.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Profitez du sac de croquettes Walpy Croc 18 kg, riche en viande, produit localement pour le plus grand plaisir de votre chien. Jusqu'au 27 novembre, le sac est à seulement 3 990 francs. Vos animaux aussi ont droit au plaisir et mieux encore, aux bonnes affaires. Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
C'est la fête chez Auchan Quai Ferry et Auchan Auteuil. Du 3 au 30 novembre, on célèbre nos 2 ans avec un grand jeu anniversaire. 3 millions de francs de cadeaux à gagner et un super caddie surprise de 55 000 francs chaque jour et par magasin. Et en plus, profitez de bons d'achat, de remises en cagnotage et de prix promo tout le mois. Auchan Quai Ferry et Auchan Auteuil, 2 ans et toujours plus pour vous.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h34 et on retrouve tout de suite Jean-François Baudin et ses invités pour la suite de votre semaine sportmidable.
Une semaine sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Allez, avant de passer au football qui sera le dernier thème de cette émission, on revient très rapidement, Bruno, sur le top 14, donc le championnat de France de rugby qui se joue sans les internationaux, avec quelques surprises ce week-end quand même.
Oui, on en parlait, hein, les joueurs qui sont mis à disposition de l'équipe de France ne sont pas dans leur club, donc on voit que Bordeaux-Bègles a perdu chez eux en face à une équipe de Pau qui est très ambitieuse et qui a un début de saison vraiment canon cette année. On a aussi Castres qui allait s'imposer à La Rochelle. Donc ça, c'est quand même La Rochelle, c'est la, normalement, c'est la forteresse imprenable. Et puis, on a toujours malheureusement Eric Perpignan.
Malheureusement, oui, oui.
Perpignan
je
qui continue.
Je ne pense qu'à ça.
Qui continue à s'enfoncer.
Et là, je pense que la messe est dite. Même si on peut toujours espérer, bien évidemment.
Et le stade toulousain, quand même, qui est allé s'imposer à Montauban. Mais ça,
mais c'est
pas
sans doute aussi, l'équipe qui a un des réservoirs les plus importants dans le championnat.
Voilà, avec les jeunes. Et puis ce matin, le stade français qui a bien accueilli Toulon, leur mettant 50 points. Voilà, donc ça se resserre au niveau du classement. Toulouse est premier, Pau deuxième, stade français 3, et puis Toulon et Bordeaux, ça suit quoi derrière. Voilà.
Un petit mot sur le top 14, Grégoire Sirg.
J'ai bien évidemment suivi le match de Toulouse une nouvelle fois. Non, c'est là qu'on voit que la profondeur de banc et le fait d'avoir une bol d'école de rugby aussi se fait toute la différence pendant ces périodes de doublons.
Absolument. Eric Figuer.
Malheureusement.
Ne nous parlez pas de Perpignan.
Ah, si, j'en parle quand même, même si malheureusement c'est pour parler de ça. Mais bon, maintenant, toujours 0 point.
Enfin, un point,
puisqu'ils l'ont gagné la fois dernière. Mais là, perdre à domicile contre Montpellier, qui est quand même pas une équipe.
Ils ont changé d'entraîneur quand même.
Voilà, ils ont changé d'entraîneur.
Laurent Labitte a pris
les
rênes.
Il vient d'arriver. C'était peu probable qu'il se passe quelque chose tout de suite. Mais en tous les cas, on attendait quelque chose. En plus, malheureusement, ils perdent Tuilagi. Sur blessure, donc ça c'est quand même embêtant. Il revenait bien, donc ça ne laisse rien présager de bon. J'espère évidemment me tromper et que j'aurai l'occasion d'en parler ou vous en parlerez peut-être d'une autre manière bientôt.
Mais promis, on vous réinvite pour la première victoire de Perpignan.
J'espère que je reviendrai avant.
Oui, sans doute. Enfin,
par contre, Laurent Labitte a mis les points sur les i, notamment par rapport à Tuilagi, en disant que voilà, donc il avait quand même 5 ou 6 kilos en trop, et donc ça veut dire que quelque part, lui, il va essayer de remettre de l'ordre.
C'est clair que quand on est à ce point en difficulté, il y a des remises en cause à tous les niveaux.
Absolument.
Et aussi évidemment parce que il faut parler des joueurs. Hein. À un moment donné, on peut toujours parler de l'environnement, on peut toujours parler du manager, on peut toujours parler de ce qu'on veut, mais c'est les joueurs qui sont sur le pré. Et lorsque ça se passe aussi mal, il y a forcément un problème à ce niveau-là. Voilà, faut se regarder dans la glace.
Allez, le football, statu quo en tête du championnat de France avec un petit trio qui commence à se détacher tout doucement. Le PSG 30 points, Marseille 28, Lens 28 points, trois équipes qui se sont imposées ce week-end. On tient un trio assez stable jusqu'à la fin de la saison, selon vous, Eric Figuer ?
A priori, oui. A priori, oui, quand on voit les difficultés que Monaco rencontre, perdre 4-1 à Rennes, c'est quand même problématique, même si Rennes
avec Didier
a
Drogba.
Enfin repris un petit peu des couleurs avec son entraîneur Habib Bey, puisque là, le début de saison était quand même un petit peu compliqué. On a même eu peur pour lui, parce que sa place était plus que menacée. On voit qu'ils se sont réveillés, mais Monaco, lui, ne se réveille pas. Par contre, fait tellement de, comme on dit, de up and down, puisqu'on vient de parler de rugby. Et ça, c'est vraiment problématique pour eux. Oui, Lens s'accroche, une victoire un peu plus minime, mais c'est pas grave, ils font le job. Avec encore une fois un très bon manager. Bon, Paris Saint-Germain fait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de souci. Donc ces trois-là, effectivement, se détacher, c'est sans doute beaucoup dire. Voilà, je pense qu'il y aura encore.
On est encore loin de la fin du championnat.
Oui, on est encore loin. Il y a encore du travail. Il y a encore quelques équipes qui peuvent revenir. On voit que Lille quand même continue à bien jouer. C'est intéressant. Là aussi, encore une fois, avec un très bon manager, ça compte. Alors, c'est pas du tout pour dire que les managers des équipes qui ont plus de mal sont évidemment moins bons, mais...
Non, mais on remarque les managers des équipes qui gagnent.
On les remarque bien, en tous les cas, et puis on les entend aussi.
Surtout
on les entend parler, c'est très important, ça.
Grégory.
Que Genesio a beaucoup subi dans sa carrière de critique, souvent injustifiée, donc...
Aussi, mais
c'est un entraîneur de Lyon.
C'est important quand on les entend en conférence de presse, savoir ce qu'ils ont à dire, et je crois que c'est très révélateur la manière dont ils ont d'expliquer ce qui se passe dans leur club, ce qui se passe lors d'un match, etc. C'est très révélateur de la qualité de ces coachs.
Vous évoquiez l'équipe de Lille, c'était la bonne pioche pour Lille cette année, le recrutement d'Olivier Giroud.
Olivier Giroud,
il a mis 2 buts encore ce week-end.
C'est toujours une bonne pioche, même s'il l'a dit, les cages lui semblaient un petit peu plus petites ces derniers temps. Donc c'est assez sympa d'ailleurs comme remarque. Mais c'est un joueur humble, donc c'est pas du tout une surprise. Et puis il devient le plus âgé à marquer 2 fois depuis, je crois, les années 40. Voilà, c'est pas rien. Mais bon, c'est un joueur et un sportif au-dessus de tout. Donc il continuera encore à marquer, à faire les beaux jours de Lille.
Tiens, vous qui nous parliez de Perpignan en top 14, parlez-nous d'Auxerre. en Ligue 1 dernier et ça décolle pas cette saison. Auxerre, c'est le club qui va faire la navette entre la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 1, la Ligue 2.
Si on compare Perpignan de.
Je ne sais pas le dire, c'est vous qui le faites, Bruno.
Ouais, si on compare à Perpignan, quand même, Auxerre. Alors, c'est difficile de dire qu'Auxerre joue bien en étant aussi mal classé, mais elle ne joue pas si mal que ça. Et puis les écarts, surtout l'écart avec les équipes devant, puisque je crois qu'il y a facilement 5 points avec le 14e. C'est vraiment pas grand-chose si tu as le classement sous les yeux.
Le 14e, c'est Brest qui a 13 points et Auxerre en a 8.
Voilà, donc 5 points ou 6 points, c'est vraiment pas grand-chose. Une victoire peut très vite débloquer la situation. Alors c'est toujours facile à dire, hein, une victoire. Si c'était facile d'en avoir une de victoire, Auxerre le saurait depuis longtemps, en tous les cas depuis le début de la saison. Mais non, les écarts sont faibles. Les écarts sont très faibles en haut, sont très faibles en bas. Donc il y a encore de quoi. L'équipe ne joue pas si mal que ça et donc elle n'est pas du tout perdue.
Un mot sur ce championnat, Grégory Sirgue.
Bah pareil, là le classement il est resserré. En plus je l'ai sous les yeux donc c'est encore plus facile. Mais quand on parlait de Monaco n'est qu'à 3 points de Lille qui est 4e. Donc ça va très très vite là aussi. Et après par contre il y a le décalage comment ça se fait, notamment à la 10e place il y a Toulouse qui a seulement 16 points et après Angers. Donc moi, c'est Marseille, c'est bien la mayonnaise prend, surtout qu'ils avaient essayé de tout seuls se saborder le début de saison avec leurs soucis extrasportifs. Maintenant, est-ce qu'ils vont refaire la même
Marseille.
Chose Oui, voilà. C'est un contexte particulier.
C'est pas la mayonnaise, c'est la bouillabaisse.
C'est la bouillabaisse qui n'a pas pris, oui. Exactement.
C'est ça, la Yoli. Mais non, s'ils arrivent à rester sérieux jusqu'à la fin, ils pourront aller titiller le PSG, ce qui redonnera un peu plus d'intérêt aussi.
Ils ont encore des petites baisses de régime, mais beaucoup moins qu'avant. Ils arrivent effectivement à performer sur des petites séquences de matchs, sur 3 à 4 matchs. On aura quand même un match très intéressant cette semaine en Coupe d'Europe. Je crois contre Newcastle, me semble-t-il, et qui a fait un très bon match ce week-end en championnat d'Angleterre. Donc ça va être important, je pense, pour Marseille de bien réussir ce match-là.
Affaire à suivre.
Pour la suite, pour le championnat national, mais pas que. Donc attendons de voir cette semaine. Mais il joue bien, il y a une bonne dynamique. La mayonnaise, pour le coup, l'Aioli a pris. Je pense qu'ils peuvent concurrencer, en tous les cas rester au contact de Paris longtemps.
Alors, il n'y a pas que la Formule 1, le rugby et le football dans l'univers sportif. On a parlé de ces trois sports, mais vous avez des coups de cœur les uns et les autres que vous nous avez gardés pour la fin, ou des coups de colère, ou des coups de je ne sais pas quoi d'ailleurs, Bruno. Vous avez un coup de mou, parce que vous n'avez rien prévu en fait.
Des coups de casque, comme au rugby. Moi j'ai un coup de cœur pour un rugbyman, bien sûr pour le jeune Nicolas Deporter, qui a vraiment fait une très belle tournée, qui sort vraiment gagnant de cette tournée d'automne. Voilà, avec deux essais sur le dernier match. Il aurait même pu en marquer un troisième où il franchit tout le terrain. Et une belle prestation contre les Fidjiens. Donc c'est bien parce que ça renouvelle un peu ce poste de trois quarts centre avec Yoram Moefana qui va bientôt revenir avec donc on a du potentiel derrière et c'est toujours intéressant de s'appuyer sur ces nouveaux joueurs.
Éric Figuère.
Moi j'ai parlé une fois n'est pas coutume de golf, hein, exceptionnellement.
De Rory McIlroy ?
Non, pas de Rory McIlroy, dont je pourrais parler toutes les semaines, ça c'est certain, mais non,
De Matthew Fitzpatrick ?
Des interclubs non plus, des interclubs élites. Je vais parler de Nouvelle-Calédonie, c'est important. Les interclubs élites qui se sont déroulés ce week-end sur le parcours de Dumbéa, qui a vu se rencontrer les quatre clubs du territoire, chez les garçons et chez les filles, et qui a vu, c'est à souligner, une victoire chez les filles de la Wengi sur Tina, et chez les garçons de la Wengi sur Tina, une très très belle victoire d'ailleurs de ces garçons. Il y a vraiment un très très bon niveau, et il est important de parler de ce club qui obtient d'excellents résultats en élite. Voilà, un tout petit peu moins dans d'autres catégories, mais en élite c'est certain. Donc c'est très important de les mettre en avant. L'équipe de Tina a fait le maximum pour le coup pour essayer de les perturber. Chez les garçons ça n'a vraiment pas été possible. Et chez les filles, par contre, ça a été beaucoup plus serré. Donc voilà, bravo au club de la Wengi.
Et c'est le président de Tina qui dit ça.
Et voilà.
Grégory, avant l'émission, vous m'avez dit que vous avez un double coup de cœur.
Double coup de cœur, je vais essayer d'être rapide. Un coup de cœur pour le CREC, qui a organisé ce week-end un tournoi de touch rugby au profit des associations Les Pansements du Cœur et Nos Petits Kangourous. Donc qui s'occupe des enfants malades et des enfants prématurés. Donc belle ambiance, belle participation et beaucoup d'argent récolté pour ces associations. Et à l'occasion de ce tournage, j'ai pu rencontrer monsieur Yann Silly, pardon, pour pas mal prononcer, qui a le club du RCC, donc dans la zone de Tindu-Caméré, et qui fait énormément de choses pour les jeunes. Et je vous invite à aller voir ce qu'il fait pour mettre en lumière son travail.
L'occasion de saluer tous les bénévoles qui s'engagent pour faire vivre
toujours,
le sport en Calédonie, notamment le week-end, mais aussi en semaine. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission. Une semaine formidable. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.